Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Amérique latine, le paradis perdu de la gauche française. Bonjour Olivier Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous dirigez l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. L'Amérique latine, un continent soumis à un mouvement de balancier politique qui le fait désormais pencher clairement à droite. L'illustration la plus spectaculaire date d'octobre dernier avec la nette victoire de Jair Bolsonaro au Brésil. Davantage qu'un tournant, la confirmation d'une tendance. Comme vous le notiez dans un article pour Libération, c'est en 2015 que s'opère la bascule avec l'élection de Mauricio Macri en Argentine. Le Chili, la Colombie, le Paraguay suivront peu après. À quelques exceptions près, le Mexique d'Obrador, la Bolivie de Morales, l'Amérique latine apparaît bien aujourd'hui comme une terre brûlée pour la gauche continentale et par voie de conséquence pour la gauche française, habituée à y puiser depuis la deuxième moitié du XXe siècle une partie de son inspiration. Il faut dire qu'il y a eu de quoi faire. Révolution castriste à Cuba, expérience socialiste au Chili, altermondialisme au Brésil, révolution sandiniste au Nicaragua et bien sûr, chavisme au Venezuela. La déception aura été à la hauteur des attentes. Beaucoup de ces expériences ont dérivé vers l'autoritarisme. La source latino-américaine qui alimentait la gauche en innovation politique semble s'être tarie. Alors Amérique latine, le paradis perdu de la gauche française, c'est le thème de ce nouveau numéro de Politique. Et j'aimerais qu'on démarre avec l'actualité vénézuélienne et cette crise importante entre un président élu, un président autoproclamé. Une crise qui occupe une place importante dans les médias en France et dans le débat politique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, Olivier Compagnon, et comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors ça ne me surprend pas du tout. On l'avait déjà vu pendant la campagne présidentielle de 2017 où on avait eu toute une série de débats sur le Venezuela et la possible adhésion de la France à l'alliance bolivarienne, à l'alternative bolivarienne pour les Amériques. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve de manière presque continue depuis 60 ans, depuis la révolution cubaine. Alors effectivement, les termes du débat aujourd'hui sont en fait assez nets. On a une révolution chaviste qui s'est mise en place à partir de 1999 et qui a attiré le regard de la gauche française comme des gauches internationales d'ailleurs parce que c'était peut-être la première tentative politique démocratique. Il faut toujours rappeler que Chavez est le produit de la volonté populaire dans sa première élection de 1998. La première tentative démocratique pour essayer de proposer un contre-modèle au néolibéralisme. Et il est évident que les gauches européennes, internationales et la gauche française en particulier a tourné les yeux vers Caracas comme elle ne l'avait jamais fait probablement auparavant. Évidemment, dérive autoritaire depuis 2015 et les termes du débat aujourd'hui sont un peu complexes. Il y a ceux qui prennent conscience qu'effectivement il n'est plus possible de défendre Maduro parce que les Vénézuéliens crèvent de faim, pour le dire très simplement. Et puis il y a, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, un certain nombre d'acteurs politiques français qui restent constants dans leur soutien au chavisme et sans doute avec un certain nombre de contradictions fortes.
Jean-Luc Mélenchon, vers qui les micros se tournent systématiquement dès qu'il est question justement de l'actualité au Venezuela. Ça a encore été le cas mercredi dernier. Jean-Luc Mélenchon qui sort d'un entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Il s'agit d'entretien de consultation avec les dirigeants des grandes formations politiques sur le grand débat, mais il y a forcément la question sur le Venezuela qui arrive.
Sur le Venezuela, moi je lui dis la seule chose qui vaille, si on recommence au Venezuela ce qu'on a déjà raté, qu'on a fait de manière inconsidérée en Libye, en Irak et partout où on a essayé de renverser un pouvoir de force, bon, on connaît la suite, ça sera des guerres civiles, des tensions épouvantables. Bon, le président dit qu'il a tracé une ligne rouge, on ne déstabilise pas. Bon, bah fort bien, si on ne déstabilise pas, c'est qu'on vote. Monsieur Maduro dit qu'il est d'accord pour qu'il y ait des élections législatives. Alors donc, il devrait y avoir un moyen d'atterrir. C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur, là. Où on va si on fait ça? Hein, demain, monsieur Drouet sera président de la République, non? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif, et derrière, on change le pouvoir.
Voilà, ce monsieur qui se proclame président de la République, c'est Juan Guaido, qui est soutenu par les États-Unis, qui est désormais soutenu également par l'Union européenne. Dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Compagnon, est-ce que vous entendez, vous, un soutien ferme au régime de Nicolas Maduro? On a quand même l'impression que c'est assez mesuré. Enfin, c'est pas non plus une adhésion absolue à ce qui est devenu justement le régime chaviste.
Dans cette réaction-là, effectivement, il n'y a pas d'adhésion totalement ferme. Dans d'autres prises de position récentes, il y en a. Ensuite, je ne suis suis pas convaincu non plus que la reconnaissance du régime de Guaido, comme l'a fait la France une semaine en gros après les États-Unis, soit aussi la bonne solution pour une sortie de crise pacifique et négociée au Venezuela. La question aujourd'hui, c'est qu'on a quand même encore un certain nombre d'acteurs politiques, et on l'a vu sur les ondes et sur les télévisions depuis une dizaine de jours, qui soutiennent, ou de commentateurs d'ailleurs, hein, je pense à Maurice Lemoine par exemple côté monde diplomatique, qui soutiennent explicitement Maduro, ce qui est quand même très difficile lorsqu'on connaît un tout petit peu la réalité du terrain, les 2,5 millions ou 3 millions de Vénézuéliens qui ont émigré récemment pour des raisons strictement de survie. Donc après ça renvoie effectivement à un imaginaire spécifique des gauches latino-américaines en France, qu'il faut essayer de décrypter, et où l'anti-impérialisme, la vieille tradition anti-impérialiste et plus précisément anti-Yankee, est très présente.
Alors justement, j'allais y venir à cet anti-impérialisme. Est-ce que c'est, on va dire, une des raisons qui font que la gauche européenne, et puisqu'on s'intéresse là à la gauche française en particulier, ont eu cet intérêt pour les expériences politiques de la gauche latino-américaine, à commencer sans doute par l'expérience castriste? 1er janvier 1959, hein, on vient de fêter les 60 ans, Fidel Castro prend le pouvoir à La Havane.
Alors c'est un des éléments, effectivement, la tradition anti-américaine de la gauche française qui plonge ses racines dans un passé vraiment lointain. Après, le moment 59, il est aussi un peu plus complexe, il faut le penser dans l'histoire internationale des gauches, puisque la révolution cubaine survient 3 ans après le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, c'est-à-dire après la grande désillusion qui détache un certain nombre d'intellectuels de Moscou, et qui se retrouvent là, à ce moment-là, un petit peu orphelins. Et de ce point de vue-là, la révolution castriste apparaît comme un ressourcement possible pour diverses raisons. D'abord parce que, dans les premières années en tout cas, elle obtient d'authentiques résultats. Il faut se souvenir aussi qu'à ce tournant des années 50 et 60, c'est un peu la découverte du tiers-monde par l'intelligentsia européenne, la recherche de solutions pour répondre aux questions sociales, économiques qui traversent le tiers-monde. Et on voit une révolution en marche qui, au départ, n'est absolument pas inféodée à Moscou, comme elle le sera une décennie plus tard, et qui obtient des vrais résultats. On le dit, c'est classique, en matière de santé, en matière de lutte contre l'analphabétisme. Et là, on voit effectivement un possible modèle à l'œuvre pour sortir le tiers-monde de sa condition.
Et ça, est-ce qu'on y voit aussi d'ailleurs une partie de la gauche française s'y déplacer pour aller voir de près justement comment se passe cette expérience?
Alors, c'est une formidable expérience de tourisme politique. Tous les grands noms du moment 68 en France sont passés par Cuba dans les années 60. Roland Castro, Bernard Kouchner, pour ne citer qu'eux. Et Cuba est vraiment une référence absolument majeure dans ces années-là, jusqu'au tournant de 1968. Parce qu'après, il y a aussi un moment important en 68, avec d'une part ce fameux discours de Fidel Castro, Plaza de la Revolución, qui en fait entérine, accepte, donne son appui à la répression du printemps de Prague par les chars soviétiques. Et puis d'autre part, 68, c'est aussi un moment important dans la répression interne que va mener Castro contre un certain nombre d'intellectuels qui, au départ, avaient soutenu sa révolution, mais s'en démarquent. C'est notamment le début de l'affaire Padilla. Et là, on voit effectivement un régime qui est de plus en plus inféodé à Moscou, ce qu'on pouvait en fait déjà observer depuis 1965, mise en place du parti unique. Et donc là, on a un déplacement important en 1968 sur la question cubaine.
Suite à l'affaire Padilla, son arrestation, d'ailleurs Olivier Compagnon, il y a un certain nombre d'intellectuels français de gauche qui vont se positionner pour dénoncer cette dérive autoritaire, notamment Jean-Paul Sartre, qui dans une lettre ouverte avec d'autres intellectuels en 1971 écrivait à Castro « Nous vous exhortons à épargner à Cuba l'obscurantisme dogmatique, la xénophobie culturelle et le système répressif qu'imposa le stalinisme dans les pays socialistes. » En quoi le positionnement par rapport au régime castriste à Cuba a été constitutif aussi peut-être d'un positionnement au sein de la gauche française? C'est-à-dire, est-ce qu'on était pour ou contre? Ça participait justement de ce positionnement?
Je crois qu'il y a un clivage qui se joue entre 68 et 72 autour de la question cubaine et de la question chilienne, qui devient un nouvel horizon révolutionnaire, ou plutôt de transformation sociale radicale, mais dans un cadre démocratique. Et au fond, je pense que la limite, elle se joue à ce moment-là. Ce même Sartre, d'ailleurs, Jospin, que vous citez là, dans son soutien à Padilla en 71, qui avait voyagé début 60 à Cuba avec Simone de Beauvoir, et qui en avait tiré ce fameux reportage paru dans France Soir en juin-juillet 1960, un très long reportage, Ouragan sur le sucre, qui était tout à fait révélateur de cette fascination des intellectuels de gauche pour ce qui était en train de se jouer à Cuba, en sachant que c'est à la fois la capacité de transformation sociale dont semble témoigner la révolution cubaine dans ses premières années, et en même temps, évidemment, sa capacité de résistance à l'impérialisme avec la fameuse affaire de l'abbé des Cochons en 1961 et cette résistance à une tentative de contre-révolution menée par les États-Unis. Expérience très intéressante puisque c'est pas la première fois que les États-Unis intervenaient en Amérique latine dans les années récentes. 1954, par exemple, il y avait eu au Guatemala une intervention contre un régime issu également de pratiques démocratiques, et cette intervention avait fonctionné. Donc là, Cuba fait véritablement figure dans l'imaginaire international de réduit susceptible de résister à cet impérialisme yankee.
Vous avez évoqué l'autre expérience quasi simultanée, c'est celle au Chili, expérience socialiste avec Salvador Allende. Est-ce que pour une partie de la gauche, peut-être disons, alors qualifions-la de sociodémocrate, c'était une expérience davantage fréquentable et qui là aussi a été structurante, y compris après la disparition de Salvador Allende, l'installation de la dictature par Pinochet au Chili?
Alors, je pense effectivement que l'unité populaire d'Allende entre 1970 et 1973, c'est un moment majeur dans cette relation gauche-française Amérique latine. Là encore, quelques éléments de contexte, il intervient après 68 et après, au fond, la grande déception du moment 68 pour la gauche française. 68, c'est un échec, ça se termine dans les urnes par un triomphe du gaullisme. Et au fond, deux ans plus tard, survient cette expérience authentiquement démocratique qui va faire figure véritablement d'exemple. Et là, le cas de Mitterrand est absolument remarquable, puisque un certain nombre de membres du Parti Socialiste, Claude Estier par exemple, se déplace très tôt vers le Chili et prépare une visite de Mitterrand en novembre 1971. Et lorsqu'il se livre à la presse au retour de cette visite, on voit employer les termes de modèle, d'exemple.
C'est d'ailleurs sa première visite à l'étranger en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste. Antoine Dulcer, bonjour.
Bonjour.
Et la cause chilienne, ça a bien été un des grands combats du Parti Socialiste français dans les années 70, y compris après le coup d'État de Pinochet.
Oui, d'où le choc ressenti par tous les socialistes et la gauche française au moment du coup d'État de Pinochet ce 11 septembre 1973. On a retrouvé une archive, c'est la réaction de François Mitterrand après ce coup d'État, le 12 septembre 1973, sur l'antenne de France Inter.
Il est forcément très douloureux et en même temps très important pour l'analyse d'un responsable politique socialiste français que de considérer de quelle façon les forces conservatrices, appuyées naturellement sur le grand capital et sans doute sur des interventions des États-Unis d'Amérique, peuvent nier à ce point les données fondamentales qui font une société civilisée.
Et pour mieux comprendre l'importance du Chili et de l'Amérique latine dans l'itinéraire politique de François Mitterrand et du Parti socialiste, j'ai interrogé une historienne, Judith Bonin, qui est maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne. Le Chili était-il réellement un modèle pour la gauche à cette époque? Et qu'en est-il des autres pays socialistes de la région, et notamment Cuba, où François Mitterrand s'est rendu un peu plus tard, c'était en 1974?
Avec le Chili, on a beaucoup posé la question du modèle chilien. Est-ce que l'unité populaire d'Allende aurait été un modèle pour l'union de la gauche? En réalité, pas vraiment. On va voir parce que c'est intéressant et parce que c'est une expérience, un exemple d'union de la gauche. Mais très rapidement, c'est un argument qui est notamment retourné par la droite qui, en 73, dit « on vous promet le Chili et puis vous aurez le Pérou ». Et on se rend compte que voilà, la comparaison avec les situations latino-américaines n'est pas forcément toujours positive pour le projet politique socialiste. Donc en fait, effectivement, on creuse pas particulièrement les questions de politique intérieure et puis on insiste plutôt sur les différences sociologiques, économiques entre la France et ces pays en disant voilà, on a des proximités politiques mais on a des modèles très différents et donc des projets politiques très différents. À Cuba, effectivement, c'est l'image de la Cuba révolutionnaire, c'est ça qu'on réactive et donc là aussi, on a des textes qui sont un peu plus précis parfois, y compris de gens comme Gaston Defer qui reviennent sur le modèle cubain, mais on s'en tient plutôt à l'image internationale que projette Cuba, plus qu'aux détails ou aux précisions concernant sa politique intérieure.
Et c'est donc d'abord la résistance au modèle américain qui importe pour les socialistes français qui se rendent en Amérique latine à cette époque, parfois plus que le modèle de politique intérieure des pays visités.
On soutient les dissidents, on valorise les forces démocrates, progressistes, quand on ne sait pas exactement comment les qualifier, quand elles s'opposent aux militaires, mais quand elles ont un marxisme un peu différent de celui du PS. Donc voilà, on ne rentre pas forcément dans les détails des proximités de programmes, etc. C'est la position sur l'échiquier politique mondial, la position en termes de rapport Nord-Sud et de pression à l'impérialisme économique ou politique des États-Unis.
Voilà, Judith Bonin, historienne de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et pour approfondir cette question, on renvoie à son ouvrage « Les voyages de François Mitterrand, le PS et le monde », publié en 2014 aux presses universitaires de Rennes.
Alors, des voyages de François Mitterrand, des voyages aussi d'un autre président socialiste, François Hollande, Olivier Compagnon. Combien il en a fait en Amérique latine pendant son quinquennat? Ils ont été assez nombreux, je crois.
Il a visité 13 pays, si ma mémoire est bonne. Vous me prenez un petit peu de cours, mais en tout cas, effectivement, c'est un président latino-américain, entre guillemets.
Pour quelle raison?
Alors, je pense qu'il y a un tropisme personnel. Pour la petite histoire, le jeune François Hollande, au début des années 80, à un moment donné où la Maison de l'Amérique latine, cette institution créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour justement favoriser les relations entre la France et le sous-continent est en crise, on est nommé le trésorier pour la sortir de la crise. Et il rappelait toujours ça pendant son quinquennat afin de montrer qu'il avait des liens anciens avec l'Amérique latine. Je crois qu'il est l'héritier effectivement de cette tradition très mitterrandienne hein, d'intérêt pour le Parti socialiste. Et là je reviens en un mot sur l'expérience chilienne. J'avais eu la curiosité de mettre côte à côte le programme d'union de la gauche donc de juin 1972 et le programme d'unité populaire signé en décembre 69 à Santiago, et il est absolument remarquable de voir que le préambule est quasiment, non pas une copie ou un plagiat, mais en tout cas une réplique du document chilien, avec l'importance stratégique d'unir les forces de gauche pour effectivement parvenir à mettre en place une transformation sociale dans un cadre démocratique. Chose d'ailleurs qui est importante également pour le Parti communiste, parce qu'on parle souvent des visites de Mitterrand, de Fer, Estier au Chili, mais quasiment au même moment, on a également Duclos qui voyage au Chili, et c'est donc une gauche française dans toute son hétérogénéité qui est complètement fascinée par cette expérience, y compris aussi, indépendamment des figures de proue, la mise en place d'un tourisme vers le Chili, hein, de jeunes militants anonymes qui vont observer in situ cette expérience, cette voie chilienne vers le socialisme.
Alors il y a eu le tourisme politique vers Cuba, tourisme politique vers le Chili. Est-ce qu'on a constaté la même chose, par exemple au Brésil, avec l'arrivée de Lula au pouvoir?
C'est moins vrai avec le Brésil, dans la mesure où Lula, malgré ce qu'il incarne à titre personnel, l'ancien ouvrier sidérurgiste devenu président de la République, ce qui est une vraie rupture dans l'histoire politique du Brésil, a quand même été le perpétuateur d'un modèle économique très orthodoxe en termes de néolibéralisme. Et au fond, tous les bilans qui ont pu être dressés de mandats de Lula à la fin des années 2000 ont bien insisté là-dessus. Il incarnait quelque chose à titre individuel, la politique qu'il a mise en œuvre n'était pas véritablement pensée comme une alternative.
J'ai envie de vous dire, la politique économique qu'a mise en place François Hollande lorsqu'il est arrivé au pouvoir était assez orthodoxe également.
Oui, alors, certes, absolument. Ça explique d'ailleurs peut-être le fait que après la défaite de Lionel Jospin en 2002, enfin l'absence de Lionel Jospin au second tour de la présidentielle de 2002, au début de l'année 2003, alors que Lula prend le pouvoir, François Hollande fait une déclaration, alors qu'il s'agit de reconstruire le Parti Socialiste Français, en disant explicitement que le Brésil de Lula peut constituer, pour le Parti Socialiste Français ravagé, un modèle possible pour rénover ses pratiques. Et là, il renvoie d'ailleurs à toutes les expériences de la gauche brésilienne sur la démocratie participative, etc. etc. Pour revenir à votre question, s'il y a eu une nouvelle phase de tourisme politique vers l'Amérique latine dans les années 2000, c'est évidemment vers le Venezuela qu'elle s'est dirigée, parce que là on avait une expérience donc clairement démocratique et en même temps à partir de 2005 porteuse d'un projet, le socialisme du 21e siècle, qui a effectivement d'une part attiré toute une série de personnalités politiques de la gauche européenne, mais aussi des centaines et des centaines de jeunes militants anonymes qui parfois se sont mis à travailler sur le terrain, aux côtés des conseils populaires, etc. Et ça, c'est quelque chose de vraiment tout à fait intéressant, qui montre des vrais phénomènes de continuité. Hein. C'est plus ou moins la même chose que ce qui s'était passé dans la première moitié des années 60 avec la question cubaine.
Alors, il y a une autre expérience dont on n'a pas encore parlé, Olivier Compagnon, que j'aurais pas forcément songé, moi, à inclure dans cette discussion sur, finalement, comment l'Amérique latine et les épisodes politiques depuis, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle ont pu inspirer la gauche française. C'est la révolution sandiniste au Nicaragua. En préparant l'émission, vous nous avez dit, bah voilà, ça a été aussi quelque chose d'important pour la gauche française.
Alors, oui.
Il faut peut-être redire d'abord ce que ça a été que cette révolution sandiniste et en quoi elle a été inspirante.
Très concrètement, le Nicaragua est depuis les années 30 une dictature à l'ancienne tenue par le clan Somoza qui se repasse le pouvoir de père en fils. Au début des années 70 se met en place une guérilla notamment menée par le Front Sandiniste de Libération Nationale et cette guérilla prend le pouvoir en 1979 avec l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega. Alors là encore, on a un nouveau moment qui succède, je dirais, à la déception cubaine, le virage vers un modèle autoritaire, qui succède à la déception chilienne, le coup d'État du 11 septembre 1973, mais qui s'insère dans un contexte intellectuel qui est différent. Parce que là, on est à la fin des années 70, et je dirais que la révolution est déjà en berne auprès de nombreux intellectuels de gauche. La critique des armes, pour reprendre le titre du livre de Régis Debray en 1974, a déjà été faite. La question de la violence politique fait l'objet de débats très importants dans ces années 70, qui sont celles des Brigades Rouges, de la fraction Armée Rouge en Allemagne, d'Action Directe en France. Et en fait, on est dans un moment où de nombreux intellectuels de gauche se détournent progressivement d'un marxisme orthodoxe. Donc la question nicaraguayenne est une question un peu de transition où à la fois beaucoup revivent à Managua leurs espoirs de la Havane ou leurs espoirs de Santiago et en même temps il y a une forme de distance. Simplement, c'est la question de l'anti-impérialisme qui permet de nouveau à la gauche française de faire du Nicaragua sandiniste un symbole, puisqu'on sait que après l'élection de Reagan, la grande affaire de la politique latino-américaine de Washington, c'est d'éliminer le gouvernement sandiniste, que Washington va financer la guérilla des Contras pendant toutes ces années-là, et c'est dans ce contexte-là qu'on voit apparaître en France, notamment, de très nombreux comités de solidarité avec le Nicaragua, qui là encore font converger toute une série de personnalités de la gauche intellectuelle. Mais pas toute la gauche. 1982, il y a un manifeste d'intellectuels, dont Bernard-Henri Lévy, qui enjoint au Congrès américain de continuer à voter les crédits pour financer les Contras au nom des dérives mécaniques vers l'autoritarisme que toutes les révolutions latino-américaines ont eues. Et ouais. Donc là, on voit...
Les Contras, voilà, qui s'opposaient aux
sandinistes.
Il faut d'ailleurs rappeler que Daniel Ortega, figure de cette révolution sandiniste au Nicaragua, est devenu président. Il l'est à nouveau et depuis quelques temps, là aussi, on observe une dérive assez autoritaire de son pouvoir.
Incontestable.
Dans un certain nombre de ces expériences, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, il est question de révolution. Est-ce que le fait qu'il y ait cette mystique révolutionnaire, c'est aussi un élément d'explication pour comprendre à quel point la gauche française est attirée par ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Amérique latine?
Oui, c'est un facteur d'interprétation. Là, c'est, je dirais, une vision romantique de l'Amérique latine comme une terre des possibles révolutionnaires. Je trouve que Régis Debray, dans son autobiographie politique parue en 1997, « Loué soit nos seigneurs », dit ça très très bien, cette fascination romantique où on revit peut-être à la Havane en 59 ce que nous aurions pu vivre si nous étions nés au 19e siècle en 1848 à Paris. Il a des très belles lignes sur le mot « révolution » qui claque comme une promesse de transformation radicale et immédiate. Et donc cette dimension, effectivement, est également très présente. Cette dimension imaginaire est également très présente.
C'est une fascination unilatérale, Olivier Compagnon. Ou bien est-ce qu'on peut dire aussi que les épisodes révolutionnaires français ont inspiré les gauches latino-américaines?
La commune, sans doute, dans l'histoire... dans l'histoire du marxisme est importante. Évidemment, la révolution bourgeoise de 1789, non, et même le moment 1848, je n'en suis pas complètement convaincu. Simplement, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'à la fois, il y a cette dimension très romantique, très imaginaire, très symbolique, et dans le même temps, on a aussi des éléments très concrets qui quasiment conduisent à des transferts de politique publique. On parlait tout à l'heure de Lula et je vous disais qu'il n'y avait pas eu un tourisme politique massif vers le Brésil, mais en revanche, il y a eu la récupération par un certain nombre d'acteurs de la gauche française d'un certain nombre d'initiatives politiques brésiliennes concernant, par exemple, la démocratie participative. Ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable. On le voit très bien à l'échelle locale. Là, il y a eu des travaux là-dessus. La ville de Saint-Denis, dirigée par Patrick Bouezek, qui importe littéralement des formes de dispositifs participatifs à l'échelle municipale qui avaient été mis en œuvre à Porto Alegre à la fin des années 1980, ou encore Ségolène Royal, qui fait de la démocratie participative l'un de ses leitmotifs politiques dans la deuxième moitié des années 2000, en s'inspirant explicitement d'expériences latino-américaines.
Alors, Porto Alegre, au Brésil, c'est là qu'a été créé le Forum Social Mondial, berceau, on pourrait dire ça comme ça, de l'altermondialisme. Alors, qui, effectivement, si Lula n'a peut-être pas engendré de tourisme politique, ces expériences-là, en tout cas, ont intéressé un certain nombre de politiques, comme par exemple un certain Noël Mamère. Nous sommes en février 2002, il est en pleine campagne présidentielle pour les Verts, et sa campagne le mène justement à Porto Alegre.
Dans les rues de Porto Alegre, Noël Mamère donne des couleurs brésiliennes à sa campagne présidentielle. De nombreux responsables politiques français ont fait le déplacement pour participer au Forum Social Mondial. Le candidat des Verts estime qu'il est à sa place, sans succomber à un quelconque effet de mode.
Le combat contre la mondialisation libérale et ses effets destructeurs, c'est un combat que non seulement nous accompagnons, mais dont nous sommes acteurs depuis longtemps. Et donc, ma place ici, elle est naturelle.
Voilà, Noël Mamère en 2002 au Forum Social Mondial de Porto Alegre. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Bon, le mouvement altermondialiste a fini un petit peu par s'éroder. Aujourd'hui, Olivier Compagnon, si la gauche française devait aller chercher une forme d'inspiration sur le continent latino-américain, il faudrait qu'elle aille où? Mais y aurait-il une destination où aller? Puisque, comme je le disais au début de l'émission, le continent a fait un virage à droite qui est quand même assez marqué.
Là, effectivement, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Alors, on pourrait dire, observons avec attention ce qui va se passer au Mexique après l'élection de López Obrador. Enfin, le Mexique est confronté à des problématiques tellement particulières, celle du narcotrafic, celle de l'hyperviolence liée au narcotrafic, que, disons, il y a une distance des problématiques politiques qui fait que on peut difficilement aller y chercher un modèle. Ce qui est intéressant dans ce que dit Noël Mamère en 2002, c'est effectivement cette idée que l'Amérique latine a été le berceau de la révolution néolibérale, ne l'oublions jamais. Elle est partie du Chili, sa première mise en application, c'est le Chili de Pinochet, et puis ensuite elle s'est répandue progressivement en Amérique latine, dans les Amériques, dans l'Angleterre de Thatcher, grâce ou à cause des prescriptions du FMI et des grands organismes internationaux, au point de devenir le modèle dominant à la fin des années 90, et que l'Amérique latine apparaît toujours comme terrain précurseur de la révolution libérale, néolibérale, comme aussi le terrain précurseur de ses possibles contestations. Donc c'est le cas des formes de démocratie participative à Porto Alegre, du Forum social mondial et des expériences chavistes. Il y a cette idée d'une régénération possible au travers des expériences latino-américaines qui parcourent pas seulement la gauche française, les gauches européennes, c'est très frappant en Allemagne aussi, dans les années 70 ou 80.
Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, et pour conclure, Olivier Compagnon, que si on veut savoir ce qui va nous arriver au niveau politique en Europe, on a intérêt à regarder ce qui est en train de se passer en Amérique latine?
C'est une idée que je défends très souvent auprès de mes étudiants, que l'Amérique latine est un formidable laboratoire pour penser de possibles évolutions, notamment de l'Europe occidentale, d'ici 10 ou 15 ans. Ce qu'on appelle, à la fin des années 90, la crise de représentation des partis politiques, sociaux-démocrates, de centre-droit, qui consiste en fait dans leur rejet profond, parce qu'ils appliquent tous la même politique. C'est peu ou prou ce à quoi on assiste aujourd'hui quand on voit des formations traditionnelles du paysage politique français ou italien disparaître corps et bien au travers d'une élection et voir surgir dans le panorama politique ce qu'on appelait en Amérique latine des outsiders et qu'on appelle aujourd'hui en Europe des populistes, mais au fond j'ai l'impression que on a là, sinon des phénomènes comparables, du moins des éléments pour réfléchir à la situation européenne par rapport à ses antécédents latino-américains.
Eh ben merci beaucoup Olivier Compagnon d'avoir participé à cette émission politique. C'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige, et que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Voilà, je vous retrouve lundi à 18h20 pour Du Grain à Moudre. On s'intéressera à la place du handicap à l'école. Dans un quart d'heure, la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.